Le magazine des Nations Unies.
Ebola en RDC, les Nations Unies s'engagent à renforcer la riposte et confient la coordination des interventions d'urgence au représentant spécial adjoint David Gressley. Engagement pris au moment où l'épidémie de cette maladie a déjà causé la mort des 1200 personnes et où le risque de propagation reste très élevé. Les précisions dans cette édition. Ouverture ce lundi 27 mai à Kinshasa des travaux de la 48e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Enjeux et préoccupations de cette rencontre dans quelques instants. La RDC enregistre 5 000 à 7 000 nouveaux cas de fistules obstétricales chaque année. En RDC, l'UNFIA et le ministère de la Santé se mobilisent pour lutter efficacement contre ce fléau qui accable les femmes. La journée internationale pour l'élimination de cette maladie a été célébrée ici à Kinshasa et dans les provinces. Enfin, déplacement des personnes dans le Massissi et à Rutshuru au Nord Kivu, c'est le sujet d'une étude dont les résultats ont été publiés cette semaine par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Le chef de mission de cette agence est l'invité du magazine UN. Voilà tout pour le sommaire. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à toutes et à tous. L'épidémie de la maladie à virus Ebola sévit depuis déjà 10 mois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La situation préoccupe la communauté internationale et les Nations Unies ont annoncé jeudi dernier des mesures pour renforcer la riposte, ainsi mettre fin à cette épidémie. Honoré Mistenga Kalala pour plus de détails.
La décision de l'ONU est tombée jeudi 23 mai. Elle est intervenue alors que l'épidémie d'Ebola est entrée dans son 10e mois avec un nombre toujours croissant de nouveaux cas observés ces dernières semaines. Vu la complexité croissante de l'environnement dans lequel la riposte évolue, les Nations Unies ont ainsi décidé de renforcer désormais leur engagement politique et leur soutien opérationnel. Cette volonté devra se concrétiser notamment par l'intensification de l'appui à la coordination humanitaire, le renforcement de la préparation et de la capacité de réaction à Goma et dans les pays voisins. Le numéro 2 de la MONUSCO, David Gressley, a été nommé coordonnateur des interventions d'urgence. Le représentant spécial adjoint mettra à contribution sa riche expérience en leadership humanitaire, politique et sécuritaire. Il devra ainsi veiller à ce qu'un environnement sécuritaire et politique favorable soit en place en vue d'une riposte encore plus efficace. Par ailleurs, de son côté, l'OMS va adapter ses stratégies de santé publique afin d'identifier et de traiter les personnes le plus rapidement possible. En début de semaine déjà, s'était ouverte à Genève la 72e Assemblée mondiale de la santé à laquelle ont pris part les autorités congolaises. Cette session avait pour objectif de trouver les voies et moyens de contenir l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit au Nord Kivu et en Ituri. Au cours des travaux, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et la RDC avaient reconnu que le défi sécuritaire compliquait la riposte contre la propagation de la maladie.
Il s'ouvre ce lundi 27 mai à Kinshasa la 48e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Au cours de ces assises, les États membres évalueront la mise en œuvre des recommandations de la précédente session tenue à N'Djamena au Tchad en décembre 2018 et échangeront des informations et des analyses sur la situation géopolitique et sécuritaire de la sous-région. À 24 heures de l'ouverture des travaux, Jean-Pierre Elali Koko nous fait le point.
Les discussions de cette rencontre tourneront autour des récents développements politiques et institutionnels en Afrique centrale ainsi que sur les enjeux liés à la gouvernance, aux processus électoraux, à la situation humanitaire, aux droits de l'homme et à la sécurité intérieure et transfrontalière. D'autres questions importantes figurent à l'ordre du jour de la réunion de Kinshasa. Les activités des groupes terroristes dans la sous-région, le mercenariat et les crimes transnationaux organisés, le trafic illicite des ressources naturelles. Il sera également question de la libre circulation de personnes, la réforme du secteur de sécurité, l'impact sécuritaire des conflits liés à la transhumance et au pastoralisme. La session ministérielle du comité aura lieu le 31 mai. La première partie des travaux du comité sera dirigée par le ministre tchadien des Affaires étrangères, président en exercice du comité depuis la 47e réunion tenue à N'Djamena en décembre 2018. Mise en place en 1992 par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, le comité comprend les 11 pays membres de l'espace CEAC, dont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Rwanda.
Le monde a célébré jeudi dernier la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Le thème retenu cette année est « La fistule obstétricale est une violation des droits humains, finissons-en maintenant ». À Kinshasa, cette célébration a été marquée par une cérémonie organisée par le ministère de la Santé et la remise des 32 kits de dignité aux femmes opérées à l'hôpital Biamba-Marie-Mutombo. Nous sommes là dans la commune de Massina. Selon l'UNFPA, la RDC enregistre chaque année 5000 à 7000 nouveaux cas de la fistule obstétricale. L'agence onusienne appelle à plus d'engagement pour renverser la tendance. Reportage Jean-Pierre Elali Ikoko.
Dans son intervention, Victor Rakoto, représentant adjoint de l'UNFPI en RDC, a salué les efforts déployés par la République démocratique du Congo et ses partenaires dans la lutte contre les fistules chez les jeunes femmes. Il mentionne ici les actions menées par son organisation dans ce domaine.
En 2018, 8 provinces ont été appuyées pour avoir ces capacités, et ce qui a conduit à la réparation de 900 cas. Cette année, 2019, 9 autres provinces seront appuyées, et cette année, nous allons encore organiser un autre gala de collecte de fonds qui va nous permettre de continuer à prendre en charge au moins 3000 cas.
Pour arriver à vaincre ces fléaux, la ministre du Genre, Chantal Safou, préconise, entre autres, la sensibilisation et les plaidoyers.
Nous devons renforcer les plaidoyers et mener des campagnes contre les mariages précoces et forcés et pour l'éducation des filles, sans oublier l'accès volontaire à l'information et au service des planifications familiales de qualité.
Notons que les femmes qui présentent la fistule obstétricale souffrent d'une incontinence urinaire et fécale permanente. Elles ressentent de la honte et font l'objet d'une discrimination sociale due aux odeurs des urines qu'elles dégagent et aux fausses croyances.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous poursuivons notre série de décryptage des objectifs de développement durable. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, c'est le quatrième objectif des objectifs de développement durable. Aujourd'hui encore, le magazine des Nations Unies reçoit nos deux experts du PNUD RDC en la matière. Jean Amissi et Idesbald Chinamula y répondent aux questions d'Honoré Missengakalala.
Idesbald Chinamula, bonjour.
Bonjour.
Jean Amissi, bonjour.
Bonjour.
Oui, nous continuons avec la série des ODD, Objectifs de Développement Durable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ODD 4, qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Idesba Tinamoura d'abord, c'est quoi une éducation de qualité?
Et merci encore, Honoré Missenga, pour les comptes de la Radio Okapi. L'éducation de qualité, c'est justement un élément important qui vient s'ajouter à ce qui était déjà pour cet ODD. Vous devez vous souvenir d'abord que la question de l'accès à l'éducation faisait déjà partie des objectifs 10 millénaires pour le développement. Mais là-dessus, la cible principale, c'était favoriser l'accès pour tous et toutes à l'école, et particulièrement l'école primaire. Je pense que la plupart des pays ont fait des progrès, particulièrement avec la campagne « Toutes les filles à l'école », dans la promotion de l'éducation à l'école primaire. Cependant, l'ODD fait maintenant une mention spéciale en mettant l'accent sur la qualité. Donc là, nous parlons maintenant en termes de la formation qualitative, et ça c'est un élément important.
Oui, une éducation de qualité pour tous.
En fait, c'est ça, une éducation de qualité pour tous. Nous avons presque 5 ou 6 éléments principaux. Le premier élément, c'est l'accès pour tous à l'école primaire et secondaire. Le deuxième élément, c'est l'accès à l'éducation préscolaire. Vous savez, les cursus scolaires, quand même, ça fait 20 ans, un voyage de 20 ans. Il faut préparer déjà la petite enfance à entamer ce voyage de 20 ans. Et puis, le troisième élément de cet objectif, c'est l'égalité des chances au niveau de l'éducation post-secondaire. Promouvoir une égalité des chances, les hommes et les femmes. Et puis, le quatrième élément de cet objectif, c'est maintenant qu'on parle du développement des compétences. Les compétences en termes de qualifications pour être employé, bien sûr, à occuper des emplois décents, comme nous le disons souvent, mais aussi des compétences en termes de création d'entreprise. L'idée ici, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat local qui est porté également par l'élite nationale ou l'élite locale. Ensuite, nous avons toutes les questions d'élimination des barrières ou des discriminations liées au sexe, aux origines, aux provinces. Et puis, nous avons l'autre élément qui est important, c'est l'élément de développement durable.
Jean Amissi, vous avez un commentaire et un complément à faire.
Monsieur Idesbald a relevé des choses extrêmement importantes. Je voudrais souligner très rapidement que l'ODD 4, c'est un ODD transformationnel, un ODD important avec celui de la santé qui a été débattu la fois passée. Ces deux ODD-là sont des ODD qui vont conditionner au fait la réussite de l'ensemble du programme de développement durable. Et en RDC, il faut rapidement relever que le taux brut de scolarisation des enfants à l'école primaire a sensiblement progressé. Et le pays a réalisé des progrès importants dans ce domaine-là. Mais malheureusement, il n'y a que 20% d'élèves qui terminent l'école secondaire. Et là, il y a véritablement un problème de qualité de l'enseignement.
Et alors, comment assurer, Idesbald, je reviens à vous, cette éducation de qualité à tous?
Assurer l'éducation de qualité à tous, qui est un élément majeur, qui est même le socle de cette ODD, ici, vise particulièrement à faire en sorte que les formations qui sont dispensées, on quitte un peu ce que nous appelons aujourd'hui les formations de type général ou de type de masse. Nous avons souvent mis l'accent sur les statistiques. Monsieur Amissi vient de les mentionner. Les statistiques de l'année passée indiquent que nous avions 1 500 000 élèves qui ont présenté les TENAFEP, qui signifie simplement qui ont fini les cycles primaires. Figurez-vous qu'au secondaire, nous avons environ 670 000 qui ont fini au cycle secondaire, environ 40%. Nous avons chaque année, et particulièrement l'année passée, 100 000 élèves ou étudiants qui ont été gradés. Gradés, ça veut dire qui ont obtenu des titres académiques. Ça, c'est des chiffres très importants qui montrent qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais toute la question, c'est de savoir quelle est la qualité de ces diplômes. C'est là qu'on revient maintenant à cet objectif, justement, qui met l'accent sur la qualité de l'enseignement. Et sur la qualité de l'enseignement, il y a deux éléments essentiels sur lesquels on veut miser. D'abord, permettre à ce que les jeunes qui ont été formés soient capables d'exercer un emploi décent, de produire des services dans le cadre de ce que nous appelons emploi décent. Deuxièmement, qu'ils s'établissent comme des entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat est une conséquence effectivement de la formation.
Jean-Michel,
je crois que mon collègue Idesmalt a soulevé toutes les questions essentielles en rapport avec cet ODD-là. Mais moi, je voudrais rester au niveau des politiques qui vont, n'est-ce pas, conditionner la réussite et le reste. Je voudrais vraiment soulever 4-5 axes essentiels sur lesquels le gouvernement devrait agir ou devrait agir pour améliorer la qualité de l'enseignement et aller vers un système éducatif efficace. La première chose, à mon avis, c'est la capacitation et la formation des enseignants. Il faut absolument donner aux enseignants la formation et les capacités pour qu'ils puissent transmettre des matières importantes. La deuxième chose, c'est la révision des programmes scolaires. Aujourd'hui, les programmes scolaires, ce sont des programmes qui datent parfois de l'époque coloniale. Le monde est en train d'évoluer et je crois qu'il faut très très vite que le ministère de l'Enseignement et les gouvernements travaillent ensemble, mais avec les partenaires aussi, pour réviser les programmes scolaires et les mettre sur le diapason actuel. La troisième chose, c'est la fourniture des infrastructures modernes et des équipements. Si vous allez dans le monde rural, vous allez trouver des enfants qui étudient à même les sols. Et même dans la ville de Kinshasa, dans la zone périurbaine, vous trouvez des écoles qui n'ont pas de toiture. Et je crois qu'il faut très rapidement développer un programme d'investissement en infrastructures, mais aussi en équipement pour permettre aux étudiants d'avancer. La quatrième chose, c'est le développement des filières scientifiques. Si nous voulons véritablement nous développer, il faudrait orienter les meilleurs de nos enfants et un nombre important vers les filières scientifiques qui vont soutenir le développement. Quand je parle des filières scientifiques ici, ce n'est pas seulement des études d'ingénieurs ou des ingénieurs hyper qualifiés, mais aussi des études techniques. Travailler le bois, conduire des engins lourds, etc., etc., ce sont des choses aussi élémentaires, malheureusement, dont notre système d'enseignement ne sait plus fournir. La cinquième chose, c'est la distribution spatiale de nos écoles, de nos universités. Il faut absolument que les gouvernements, avec les partenaires bien entendu, mettent en place une politique qui permette à ce que les écoles, les universités, avec les filières qui conviennent en fonction des provinces, soient rapprochées des populations de l'arrière-pays. Et enfin, Je voudrais soulever cette question des proliférations des universités. Vous avez dans ce pays aujourd'hui des universités, même dans le coin de rue. L'université, c'est quoi? C'est l'excellence. On ne peut pas former des excellences dans des petits bâtiments derrière les avenues. Et je crois qu'il est vraiment important que le gouvernement mette en place une politique de création des universités. Voilà en gros ce que je voulais soulever par rapport à ça.
Jean-Missi, Idesma de Sinamoa, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Le bureau du HCR et les installations de ses partenaires ont été pillés mardi le 21 mai à Monga. C'est dans la province du Bas-Jouélé. Dans un communiqué de presse du 22 mai 2019, le HCR déplore cette situation. L'agence onusienne précise que c'est un groupe d'environ 80 personnes qui ont attaqué et pillé plusieurs articles destinés à la distribution aux réfugiés centrafricains et aux vulnérables autochtones de la place. La source fait également état d'un policier blessé à la suite de cette attaque. La RDC accueille actuellement 173 000 réfugiés centrafricains localisés dans les provinces du Bas-Jouélé, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. Au Sud-Kivu, le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat a lancé mercredi dans le groupement de Bouzi le processus d'élaboration du plan communautaire d'occupation foncière dans le village de Kitembo. Cette activité entre dans le cadre du projet de planification communautaire foncière participative. Les communautés bénéficiaires directes, les autorités coutumières au niveau local et une bonne représentation des autorités provinciales en provenance de Bukavu y ont pris part. Enfin, dans le but de sensibiliser les groupes armés sur leur engagement à séparer les enfants de leur rang, la section Protection de l'enfant de la MONUSCO Kindu a organisé jeudi 23 mai un atelier de sensibilisation de 25 points focaux Protection de l'enfant en Salamabila. C'est dans le territoire de Kabambaré. Ces points focaux devront se pencher sur des thématiques liées à la protection des enfants affectés par les conflits armés et les violences sexuelles.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité ce dimanche est Fabien Samboussi, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Cette agence vient de rendre publique une matrice reprenant les résultats d'une enquête sur les personnes et des personnes retournées dans les territoires de Masisi et de Rutshuru au Nord Kivu. Il nous fait le point sur le programme de suivi des déplacements mis en œuvre par son organisation. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Fabien Samboussi, bonjour.
Bonjour.
Oui, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, vient de rendre public les résultats des évaluations réalisées dans le cadre de son programme de suivi des placements d'ETM. Ce travail a concerné les territoires des Masisi et des Rutshuru au Nord Kivu. Que pouvons-nous retenir de ces évaluations?
En effet, nous venons juste de publier le rapport des derniers résultats de la DTM pour Masisi et Rutshuru. D'une façon générale, nous avons évalué un peu plus de 1000 villages, 1073 villages pour être exact. Et au total, nous avons enregistré à peu près 400 000 personnes déplacées et à peu près 450 000 personnes qui sont retournées. Si on veut regarder peut-être un petit peu plus dans le détail, bon, sans grosse surprise, la première raison pour les déplacements et la première raison pour les retours est avant tout la sécurité. Les activités socio-économiques arrivent en deuxième position, mais très 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 loin derrière. Et puis, concernant la durée de déplacement aussi, je pense que ce qu'on peut remarquer, c'est les déplacements ont été moindres en 2019, depuis le début de l'année. Le pic de déplacement sur les dernières années était 2018, où on a à peu près 50% de la population déplacée et retournée qui a eu lieu en 2018.
Et cette progression, c'est dû à quoi?
On est toujours au début de l'année 2019, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer sur la fin de l'année. Donc il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'année en tant que telle. Mais quand on regarde les années depuis 2016, 2017 et 2018, 2018 a vraiment été de loin la pire année, puisqu'à 2016, à peu près 25% des personnes déplacées, 2017, à peu près 25%, et nous sommes à entre 45 et 50% de personnes qui ont été déplacées ou qui ont retourné en 2018.
Quel est le but de votre étude?
Le but de l'étude est de fournir des informations relativement précises et fiables sur les déplacements de population et sert aussi à guider l'assistance humanitaire. Un, sur quelle zone? Deux, quels sont les secteurs à prioriser? Et trois, de façon aussi à ce que les partenaires financiers puissent regarder avec leurs partenaires ONG et autres quelles sont les zones et quels sont les financements à allouer en particulier. Donc.
Et lorsque vous parlez des partenaires financiers, vous faites allusion notamment à quels partenaires ?
Tous les bailleurs de fonds, tous ceux qui contribuent de près ou de loin à l'assistance humanitaire, la DTM sert à guider ces bailleurs de fonds-là vers des thèmes, vers des secteurs et vers des zones géographiques où les besoins sont les plus critiques.
Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre étude ?
Une des premières difficultés, je dirais, ponctuellement, est le problème sécuritaire. Pour pouvoir faire des études fiables, il nous faut pouvoir avoir accès physiquement aux zones. Ce qui fut le cas, nous avons eu accès à la majeure partie des zones ciblées, à quelques exceptions près. La deuxième contrainte qu'on a est une contrainte financière. Ce sont des études qui coûtent relativement cher et qu'on ne peut pas systématiser à l'échelle du pays à l'heure actuelle. Du moins financièrement, nous ne pouvons pas nous le permettre. Donc on fait un premier tri par rapport aux zones les plus importantes, les zones où l'on sait où il y a le plus de déplacements, de façon à essayer d'optimiser les ressources que nous avons actuellement disponibles.
Fabien, l'OIM a-t-elle d'autres données dans le cadre de ce programme, notamment la province du Nord Kivu et bien sûr dans les pays en général, où vous avez l'idée de continuer ce travail à travers tous les pays?
L'idée de le continuer, oui. L'étendre aussi, nous souhaiterions l'étendre. Après, compte tenu des contraintes, cette année, nous avons ciblé uniquement quelques provinces et quelques zones spécifiques, quelques zones de santé par province, puisqu'on ne couvre pas les provinces dans leurs intégralités. Le Kasaï central a été une des provinces, le Kasaï oriental en fut une autre. La province du Sud Kivu a été ciblée récemment. Là, maintenant, Nord Kivu et certaines zones d'Ituri et Tanganyika sont aussi des zones que nous avons étudié en priorité en 2019.
Vous avez évoqué le nombre de retournés également. Où sont localisés précisément ces retournés dans les deux territoires concernés et quels sont les besoins de ces retournés spécialement?
On parle de plusieurs types de retournés. On parle de personnes qui étaient déplacées internes et qui retournent dans leur village d'origine, où là, on parle de besoins en termes plus trop d'urgence, mais plutôt de développement, en leur rendant la capacité de pouvoir se subvenir eux-mêmes. On parle de cas d'activités socio-économiques, d'agriculture, on parle d'accès à l'éducation, à la santé, donc services de base. Un autre type de retournés, qui sont des retournés qu'on pourrait appeler transfrontaliers, qui sont les personnes qui travaillaient en Angola et qui ont été ou qui sont rentrés dans les Kasaï. Et là, ce sont des personnes qui sont un petit peu plus dures à assister puisqu'elles ne rentrent pas dans des villages où elles habitaient avec des connexions connues. Elles rentrent d'une façon relativement rapide. On parle de centaines de milliers de personnes au cours de quelques mois. Et là, l'assistance à l'heure actuelle est une assistance de réintégration comme dans le cas précédent, mais aussi et surtout une assistance humanitaire à l'heure actuelle, puisque ces gens-là sont un poids supplémentaire pour des populations qui étaient, elles, déjà fortement affectées.
Premier volet de ma question, où est-ce qu'ils souhaitaient localiser ces retournés, spécialement dans le Nord Kivu, à Rutshuru et à Masisi, où sont-ils?
Ça, c'est une question, à la rigueur, je pourrais même vous référer au rapport, on vous donnera les coordonnées. Je ne pense pas qu'elles soient plus au nord qu'au sud en tant que telles, on parle plus de retours ponctuels au niveau de villages, donc ce sont des zones qui ont été des conflits ponctuels, on ne parle pas encore une fois de grosses échelles.
Et
des gens qui...
Et selon les ACR, la RDC comprend un peu plus de 2 millions de déplacés internes. Et quel est l'impact de votre étude sur ces grands nombres de déplacés?
L'impact en tant que tel, notre étude n'en a pas, puisque le nombre de déplacés, le HCR mentionne en effet 2 millions de déplacés internes. Notre étude nous permet de déterminer plus en détail à l'échelle de zones de santé spécifiques ou à l'échelle de provinces spécifiques et regarde pas uniquement le nombre de déplacés, mais regarde aussi leurs besoins humanitaires, leurs besoins de développement, leurs besoins sécuritaires. Donc, si vous voulez, ce sont deux approches qui sont complémentaires. L'OIM, à l'heure actuelle, n'est pas en mesure de fournir des chiffres sur la population déplacée complète dans le pays, étant donné que nos activités et nos données ne nous permettent pas de couvrir l'ensemble du pays. Donc, nous pouvons donner des chiffres relativement précis sur certaines zones. Nous souhaitons pouvoir essayer de l'étendre de façon à fournir à la population humanitaire les capacités et de meilleures informations pour faire un meilleur ciblage, qu'il soit sectoriel ou géographique.
Très prochainement, après les Masisi et les Rutshuru, l'étude pourra concerner les Kasaï, comme vous l'avez prétendu?
Le Kasaï a déjà été publié. On a fini le Kasaï en début d'année, couvrant les périodes janvier-mars. Après, ce sont des chiffres, des études que nous menons régulièrement, puisque ce sont des populations déplacées, des retours qui sont relativement fluides. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'établir ce qu'on appelle une baseline du nombre de personnes déplacées, et puis, quelques mois après ou quelques années après, revenir et faire un suivi pour avoir l'évolution de la situation du déplacement. C'est surtout aussi de voir l'évolution temporelle du déplacement et de fournir à l'instant T une image.
Et quels sont les partenaires, pour terminer Fabien, quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans ce travail?
Les principaux partenaires qu'on a sont des partenaires financiers, puisque nous ne sous-traitons qu'une faible partie de ce que l'on fait. Nous travaillons avec des institutions locales, nous travaillons avec des personnes clés, nous travaillons avec le gouvernement, bien entendu.
Monsieur Fabien Samboussi, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Pour la nouvelle de province, rendons-nous à Goma, au Nord Kivu. Dans le cadre du programme DD3R, un tête-à-tête a eu lieu mardi le 21 mai 2019 entre le nouveau président de l'Assemblée provinciale, Robert Seninga, et le chef de bureau ad intérim de la MONUSCO Goma, Julius Fondong. À l'issue de cette rencontre, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'était confié à Bernardin Nyangi.
J'ai profité de l'occasion pour lui présenter effectivement les défis majeurs que nous devons ensemble résoudre, parce que comme vous le savez, la MONUSCO est là pour accompagner le gouvernement congolais dans sa mission, celui de protéger les personnes et leurs biens, mais aussi pour la consolidation de la paix. Nous avons échangé sur la situation sécuritaire qui est très grave. Il y a une recrudescence des groupes armés dans les massifs comme vers Rutshuru. Comme vous le savez, il y a le kidnapping au niveau de Rutshuru, surtout à Kiwanja. Et nous avons échangé, voir dans quelle mesure on peut tous s'impliquer pour tout d'abord obtenir la cessation des hostilités, démobilisation et la réinsertion de ces démobilisés, pour permettre à ces personnes vulnérables déplacées d'être assistées par les humanitaires qui sont disposés mais qui ne peuvent pas le faire, d'autant plus qu'il y a le bruit des bottes.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a trait à l'enrôlement supposé des enfants soldats au Nord Kivu. Question posée lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies du 8 mai dernier. C'est le porte-parole militaire de la MONUSCO qui répond à partir de Goma.
Ma question c'est de savoir ce qui se passe dans la zone de Masisi, dans le Kirumbu, où la MONUSCO est accusée d'enrôler des forces dans la démobilisation, les enfants qui sont à l'école et qui n'ont rien à voir avec l'armée, les groupes armés. Ils n'ont jamais participé dans la guerre, mais parce que ces gens se demandent si la MONUSCO est en train de justifier quelque chose. Ces enfants sont pris des forces et ils sont enrôlés dans la démobilisation dont ils ne savent rien. Leurs parents sont en train de demander à la MONUSCO de restituer leurs enfants et ces femmes, les femmes et les parents accusent la MONUSCO de soudoyer les familles des victimes.
La force de la MONUSCO a commencé à déployer une base temporaire opérationnelle depuis le 25 avril dans le territoire de Masisi, en partie exactement sur une zone de haute tension, comme vous savez, où les affrontements entre les NDCR et une coalition des APCLS et des groupes armés du Natura se poursuit depuis le NSAFD a été délogé de la région en décembre 2018. Comme vous le savez, durant le déploiement d'une base temporaire, en plus de conduire des patrouilles de jour et de nuit par véhicule au pédestre, on fait parallèlement des activités de sensibilisation et de rapprochement communautaire en coordination avec les sections subtensives de la MONUSCO, les acteurs sécurité locaux, les chefs coutumiers et les religieux. C'est dans ce cadre des interactions avec la population locale qu'on a pu extraire, en coordination avec l'équipe de protection de Goma, 238 anciens enfants soldats qui étaient embrigadés par les groupes armés.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30 heure de Kinshasa sur Radio Capitaine.
Notez ces rendez-vous dans vos carnets pour la semaine qui commence. Ce lundi 27 mai, c'est l'ouverture des travaux du Comité consultatif permanent des Nations Unies en charge des questions de sécurité en Afrique centrale. Le 29 mai, par ailleurs, c'est la journée internationale des casques bleus. Le 31 mai, journée mondiale sans tabac, et le 1er juin sera célébrée la journée internationale des enfants.
«
Merci d'avoir suivi ce numéro de Magazine des Nations Unies. Il a été réalisé et coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, qui était également au reportage. Honoré Missenga au reportage aussi, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Moi, Billy Van Lutumba, je l'ai présenté avec l'assistance technique de Alain Goy. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de notre magazine. Excellente journée dominicale à tous.